faire un essai au niveau du son, je vais vous demander de vous présenter et de ne pas taper sur la table.
Oui. Oui, parce que je suis toujours très émotive et puis très passionnée, moi, c'est vrai. Bon, eh ben, je m'appelle Madeleine Tchèque, je suis la femme du petit-fils de Gaston Nicolas Tchèque, qui a sauvé le vignoble au bois, pas tout seul, avec bien sûr de grands amis, mais c'était lui le leader et c'était le porte-parole, c'était celui qui était... très, très calme et passionné, et je peux dire aussi que ce personnage, moi, il m'a plu et non plus. Il m'a plu parce qu'il était vraiment bénévole, parce qu'il avait pratiquement pas de vigne, donc il s'est tout donné. C'est pour ça que j'aime le bénévolat, parce que je trouve qu'il faut tout donner dans la vie. Et ce personnage, bon, il a même vendu une maison pour survivre. Mon beau-père, qui était le dernier d'une fratrie de 3 enfants, parce qu'il y avait 2 sœurs et lui, le petit dernier. Et ce sont les sœurs qui ont payé les études pour que mon beau-père soit instituteur. Hein. Autrement, il s'était pratiquement appauvri, cet homme. Donc, il n'a jamais rien récolté. Il n'a jamais vendu son nom. Et ça, je trouvais ça formidable. Par contre, je ne l'aimais pas d'un autre côté, parce que c'est un peu le cœur de mère et de femme, qui me disait, mais il a abandonné ses enfants. Il a laissé mon beau-père comme ça. Je ne pense pas que mon beau-père le considérait comme ça, mais j'avais tellement un peu de haine contre cet homme que je n'ai jamais demandé à mon beau-père des explications pourquoi. Et ça, je le regrette. Je regrette parce que je ne suis que des petits bouts de sa vie, plutôt de sa vieillesse à Gaston Nicolas Tchèque. Et ça, je le regrette beaucoup. Vous voyez, c'est ça aussi, ne plus avoir la mémoire.
Et votre nom d'époux de jeune fille ?
De Hurl.
De Hurl ?
De Hurl.
Ah, ça s'écrit ?
En un seul mot, D-E-H-E-U-R-L-E-S.
Et vous êtes né où et quand ?
Ah, je suis née à Troyes, dans cette belle ville de Troyes, et d'ailleurs j'ai encore l'accent, et le 1er juillet 39, alors je suis née en pleine guerre. Et alors, c'est un peu idiot de le dire, j'ai que des bons souvenirs de la guerre.
Vous êtes née où ?
À Troyes, pratiquement en face d'ici, Faubourg Concel. J'ai retrouvé mon quartier.
Vous êtes née chez vous ?
J'ai l'impression, parce que je ne me souviens pas du tout, bien sûr, mais ça se faisait beaucoup dans le temps. Puis je n'ai pas interrogé non plus ma mère. On était une famille unie, heureuse. Moi, je ne m'en faisais pas. Je vivais bien ma vie. Bon, c'était bien. Nous avions les grands-parents que nous appelions les grands-parents en bas, qui nous gardaient. On était heureux comme tout. Et pendant la guerre... Il y a des choses qui me reviennent, mais est-ce que c'est parce que c'est mon frère qui me l'a dit ou c'est moi qui ai encore des souvenirs? Mais quand il y avait le bombardement, puisqu'on habitait entre la ligne de chemin de fer et le faubourg Concel, donc on entendait ça, les bombes, machin, tout ça qui passait. Et mon grand-père, qui avait fait la guerre 14-18, qui nous avait raconté toute sa guerre, les tranchées et tout, et il avait creusé dans le jardin un abri. Et on fonçait dans l'abri. Et ma grand-mère, qui était, on ne peut pas dire peureuse, mais craintive, et ça lui faisait très peur, alors elle nous disait toujours, « Allez les enfants, il faut aller, il faut descendre, il faut descendre. » Et nous, avec mon frère, qui avait 8 ans de plus que moi, on s'amusait comme des fous dans le jardin. Donc j'ai jamais eu peur de la guerre, hein. Est-ce que mon frère a peur? J'en sais rien. Mais moi, je n'ai jamais eu peur. On regardait par les volets, qui étaient à la française, comme on l'appelle. Hein. On regardait les boches. Les boches passées sur la faubourg Concel. Ma mère était folle aussi, parce qu'elle disait, mais vous pouvez vous faire tuer, etc. Mais quand on est enfant, on n'a jamais peur. On n'a jamais peur. Puis il y avait des bons souvenirs. Ma mère qui faisait du pain dans sa cocotte. Alors, moi, j'ai jamais trouvé de pain aussi bon que celui de ma mère. Et je pense que les gens de mon âge, ils auront peut-être la même impression, parce que, comme il y avait peu de choses, alors on trouvait le pain qui était bon, comme de la brioche, à mon avis. Hein. C'était très bon. Alors, j'étais enfant, hein. Alors, ma mère a été... Ben, elle a fait, bien sûr, elle est partie sur les routes, hein, comme beaucoup ont fait. Et moi, j'étais très petite, j'étais dans mon berceau, et ma mère s'arrêtait ben, pour me donner du lait, mais elle avait certainement pas de lait, alors elle traillait les vaches dans les prés. Alors quand on me dit maintenant, il faut le faire bouillir, il faut le pasteuriser, moi, ça me fait doucement rigoler, hein, parce que ma mère n'avait pas le temps. Alors on buvait comme ça, et puis j'ai gardé cet amour aussi du lait cru. Et j'aime toujours aller dans les fermes. Et quand on peut, quand il y a une vache qui est tirée, je dis, je peux en boire, il est encore chaud et tout ça. Mais ça se fait plus non plus. Vous voyez, tout ça, c'est perdu. Tous ces bons souvenirs, c'est perdu. Moi, je regrette pas ce temps-là, parce que j'aime le temps où il y a la facilité, ne serait-ce pour la comptabilité. Regardez, c'est facile aussi. Hein, il n'y a plus qu'à appuyer sur des boutons. Bon. Mais je regrette aussi cet esprit de convivialité que nous avions. Il y avait quatre personnes, quatre logements là où j'habitais. Maintenant, tout est effondré, tout a été. Il n'y a plus notre maison. J'ai des photos encore de ma maison. Et on se retrouvait comme ça sur le trottoir. C'était magnifique. Le soir, c'était épatant. Bon, bah, les anciens discutaient, les jeunes. S'amuser dans la rue, maintenant on se fait écraser. Donc ça aussi, c'est cette convivialité qu'on n'a plus. Et ça, je regrette énormément. Vous savez, je connais très peu de monde dans mon immeuble. Je dis bonjour, mais c'est tout. J'ai juste une seule personne avec qui on est bien parce que nous faisons l'arbre de Noël dans notre cage d'escalier. On est heureux. Ce que je veux, moi, quand je suis rentrée ici, j'ai dit on fera quelque chose en commun. Toujours pareil, toujours cette convivialité. J'ai institué il y a 4-5 ans, cette année on ne nous l'avons pas fait, mais la fête des voisins. Nous avons fait aussi, alors ça réunit les trois blocs. Hein. Bon, il y en a qui viennent, il y en a qui viennent pas. Mais moi, sans différence d'âge, sans différence, moi je mets des feuilles à tout le monde, ils viennent, ils viennent, ils viennent pas, ils viennent pas. C'est pas un problème. Hein. Puis chacun amène ce qu'il veut. Je pense qu'on aurait pu la première année nourrir un bon paquet du quartier. Hein. C'était assez amusant. Mais on était tous heureux. Et cette année que nous ne l'avons pas fait, ben, il y a eu deux, trois personnes qui m'ont dit, ben, Madame Cheikh, on fait pas. Ben, je dis non, parce que moi j'adore les voyages. Hein. Mais alors, faut pas m'embarquer non plus sur les voyages, parce qu'alors là, on n'en parle plus. Hein. Et alors cette année, ben, il y a une dame en dessous de chez moi, une dame d'un certain âge, qui m'a dit. Allons-nous faire un arbre de Noël? Parce que je vais vous donner les boules que j'ai. Ça m'a fait énormément plaisir. Si les gens s'impliquent. C'est ça qui est important. S'impliquer dans la vie communautaire. Hein. Alors, on a fait aussi la. C'est pareil, j'ai dit, bon, c'est la fête de comment? Des gâteaux. Enfin, pas des gâteaux de Noël, de l'Épiphanie. Alors, on a fait aussi les galettes. Enfin, bref. J'essaye, vous voyez. Malgré qu'il y a des mauvais esprits, mais il y en aura toujours. Mais je disais toujours à mon ami qui on s'est fait voler l'année dernière, enfin une partie de tout ce qui était l'arbre de Noël, des étoiles qu'elle aimait beaucoup. Enfin, elle était ulcérée, elle a pleuré. Puis elle m'a dit, on n'en fera plus. J'ai dit non, on en fera parce que les cons ne nous auront pas. Il faut absolument pas que les cons puissent dire, on a gagné. Tant pis. On se fait voler des boules. Eh bon, on en rachèteront, c'est pas grave. Hein. Faut toujours se battre dans la vie. Et tant que je pourrai, moi je le ferai. Hein, je le ferai. Parce que je trouve que c'est très intéressant. Et je ne suis pas la seule, parce que quand je vois le journal et puis qu'il y a ces fêtes de quartier, je trouve ça formidable. Je retrouve mon enfance.
On va revenir à l'enfance.
Voilà, je retrouve mon enfance.
Que faisaient vos parents?
Alors, mon papa était, alors on va dire, flic. Après tout, je peux le dire, puisque mon papa était flic. Et ma maman, elle était visiteuse en bonneterie. Chez Fabin. Toujours. Alors, l'usine ne marche plus. Et Fabin, ça peut-être vous rappeler quelque chose, parce que Monsieur Fabin était un escrimeur de haut vol. Je crois qu'il a été même champion de France d'escrime. Et puis, ma maman était visiteuse. Elle faisait malheureusement 5 heures, 1 heure, 1 heure, 9 heures. On n'était pas aux 35 heures à l'époque. Hein. Et ma maman était souvent très fatiguée. Puis on s'en rendait pas compte quand on est enfant, jamais. On exigeait un peu de maman, qu'elle soit là, qu'elle soit surtout pas malade. Une maman, ça peut pas être malade. Quand j'ai perdu ma mère, j'ai pleuré plus parce que j'ai dit pourquoi elle m'a fait ça? Ça peut pas mourir une maman.
C'était il y a longtemps.
Oui, il y a longtemps. Et ça peut pas mourir une maman. Moi, j'adorais maman. Et je comprends toujours pas comment un enfant puisse renier sa mère, puisse être méchant avec sa mère. Oui, moi j'aide beaucoup de personnes d'un certain âge parce que les enfants sont pas toujours très corrects. Et ben, je dis toujours ma petite grand-mère qui est pas ma grand-mère, c'est une vieille amie et qui a un bonheur fou, c'est de garder mon chat. Alors elle me rend énormément de services, c'est ce que je lui dis. Tu me rends beaucoup de services. Il me dit, ben oui, mais je marche plus, puis ceci, non, c'est pas grave, tu me rends, moi le jour où tu seras plus là, elle a 83 ans, j'ai mon chat où je le mettrai, je pourrai plus sortir, je pourrai plus aller en vacances. Faut montrer aux vieilles personnes qu'elles sont très importantes encore, très très importantes, même si elles ne peuvent plus marcher, même si elles ont du mal, pas à s'exprimer, mais quelquefois aussi, hein, mais c'est très important. Et vous voyez, j'étais aussi, il y avait une de mes amies entièrement aveugle, à l'âge de 14 ans, elle était tombée et elle avait 90 ans quand elle est morte il y a 2 ans. Et j'allais la voir à Bar-sur-Aube, elle était toujours d'une gaieté folle. Elle savait lire, bien sûr, avec ses mains, l'écriture des aveugles, hein. Elle était merveilleuse. Et quand j'avais des fois un petit peu le vague à l'âme, ben j'allais la voir. Parce qu'elle me racontait des bêtises. Elle me racontait que c'était merveilleux la vie. Alors qu'elle était grabataire à la fin de sa vie. Mais c'était quelqu'un de merveilleux. Et elle allait, en plus, elle faisait énormément de voyages. Et elle allait même voir les musées. Et on lui permettait de toucher certaines choses. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Elle voyageait beaucoup. Alors, elle allait, bien sûr, à Lourdes, parce qu'elle était très croyante. Mais elle allait partout voir ses amis. Et ça, je dis, c'est là qu'il faut jamais baisser les bras. Même quand on est dans cet état. Enfin, elle n'était pas grabataire à cette époque-là, hein, bien sûr. Mais, vous savez, un jour, elle m'a dit, elle devait avoir 75-80, m'a dit, tu veux m'apprendre à taper la machine? Parce que moi, j'écris mes amis aveugles en braille. Mais pour mes amis qui peuvent voir clair, tu peux m'apprendre à taper à la machine. Je lui ai appris à taper à la machine. Savoir quand est-ce qu'elle était au bout de la machine. C'était pas la machine comment informatique. Hein. C'était la machine où on faisait gling quand c'était au bout. Hein. Et je lui avais appris. Et là, elle avait bien. Ça allait tout seul. C'était merveilleux. Vous voyez? Et ça, je dis, il faut conserver ces gens qui ont cette foi de vivre. Cette foi de vivre, moi j'essaye de la donner aussi, cette foi de vivre, parce que je suis plutôt gay, je suis plutôt pas inconsciente, hein, faut pas dire ça, mais j'aime bien donner un peu ma folie, hein, même à des jeunes, parce que je trouve que c'est formidable de donner la pêche, hein, la pêche, hein, et ça, je trouve ça merveilleux. Voilà. Et moi, mes petites grand-mères, elles sont comme ça, elles me donnent la pêche, même celles qui sont très malades, il y en a une qui a un cancer du poumon, qui est très malade. Mais j'essaye de lui donner la pêche. Quand je suis allée, je fais beaucoup de voyages dans les associations, musées d'art moderne, art et loisirs, et ben, je l'ai emmenée à Madrid. Elle a passé un 3-4 jours merveilleux. Ça lui a fait oublier tous ses ennuis. Bon, c'est ça qu'il faut donner aux autres, c'est donner cette pêche. Hein. Autrement, alors pour revenir à mon enfance, bah, mon enfance, elle était très heureuse, très heureuse. Mon frère dit pas la même chose, c'est drôle. Je sais pas pourquoi. Hein. Bon, c'est un garçon. On avait un grand jardin. Mon père le faisait travailler dans le jardin. Moi, j'en faisais pas lourd, hein, même pas avec ma maman. Hein. Mais on était très solidaires. Hein. On allait ensemble toujours en vacances. Quand mon frère a acheté une voiture, c'était pour aller en vacances, ensemble, tout le temps, tout le temps. C'était ensemble. On avait le chat, le chien. Quand on n'avait pas de voiture, les chartreux que vous connaissez maintenant, c'est les chartreux où il y a plein d'habitations. Mais bon, c'était le no man's land. Hein. Il n'y avait rien. Ce qu'on appelait un chantier. Hein. Oui?
Il y avait quelques maisons.
Il y avait quatre fois rien. Hein. Mais c'est un chantier hein, avec des arbres et tout. On emmenait le chat au bout d'une laisse. Le chat, il s'amusait à grimper dans les arbres. Il était 2 jours les bras en croix. Mais c'est amusant. Ben oui, tout ça. Il y a aussi ce dommage qu'on n'a pas pu prendre de photos de tous ces quartiers qui ont été démolis. Et vous voyez, quand ma mère est morte, j'ai pris les photos à l'intérieur de la maison, j'ai pris les photos à l'extérieur de la maison. Bon, peut-être ça n'intéresse que moi, hein, c'est possible, mais je voulais pas perdre ce souvenir. Et j'ai dit, on a perdu le souvenir ben, de tout ce quartier des Chartreux où il n'y avait rien. Et c'était le chantier, ce qu'on appelait, on allait au chantier. Alors, des personnes plus âgées que moi en parleront beaucoup mieux que moi. Hein.
Et vous êtes allé à l'école où?
À Paul Bert. L'école Paul Bert, j'avais une maîtresse qui s'appelait Madame Challe, enfin c'était la directrice, très dure, mais que j'aimais beaucoup, beaucoup. C'était quelqu'un qui était sévère, contrairement maintenant au laxisme, malheureusement, pas de leur faute toujours, elle était sévère, elle nous punissait, mais on l'aimait beaucoup parce que c'était toujours très juste. Donc quand on fait des bêtises quand on est jeune, c'est normal de payer. Voilà, c'est ce que je disais toujours. J'allais au patronage de la rue à Large. Il y avait les bonnes sœurs, c'est les sœurs avec des cornettes. Alors moi, j'étais bien aimée parce que j'adorais bien sûr le lait, comme je vous l'ai toujours dit. Et elle faisait bouillir des grandes marmites de lait. Et il y avait toujours cette peau, parce que c'était du vrai lait. Il y avait toujours cette peau en dessous qui fait comme du cloquet. Je ne sais pas si vous connaissez maintenant, parce que maintenant, on ne voit plus ça. Alors moi, la bonne sœur me disait, allez Madeleine, tu peux y aller. Et je grattais tout le fond. Et hop, je me tapais ça. Je me tapais la crème de lait, la peau de lait, comme on appelle. Comme la peau. Maintenant, les jeunes et beaucoup de personnes d'un certain âge, on mange plus la peau de lait. Forcément, c'est une peau qui n'a pas de consistance. Mais avant, avec du vrai lait, c'était une peau avec le gras. Et ma grand-mère, chez qui on était, en bas de la maison, alors elle faisait la même quantité de peau de lait, de sucre et de farine. Et elle faisait des petits palais qui étaient délicieux. Délicieux, délicieux. Alors, le fin du fin, c'était de mettre du raisin mis dans le cognac ou autre chose, puis elle mettait ça, c'est un régal. Mais ça, on ne sait plus faire non plus. Alors, on est obligé d'acheter de la crème. C'est de la crème à 0%, comme je dis toujours, hein, des fois ma belle-sœur me dit, c'est pas possible. Je dis, oui, mais de la crème à 12, c'est pas de la crème, quoi. La vraie crème, c'est celle qui a un bon goût de crème, qui est onctueux. Bien sûr, bonjour les dégâts pour les kilos, mais ça. Qu'est-ce que vous voulez? Tant pis, il faut aimer aussi la vie. Hein. Moi, j'aime bien, j'aime le chocolat, j'aime tout. Bon, j'aime la vie.
Et alors, vous étiez studieuse?
Très peu. Très peu studieuse. J'étais pas au fin fond de la classe, hein, faut pas exagérer. Mais je regrette maintenant, un peu, de ne pas avoir continué un peu mes études, c'est vrai. Je suis arrêtée au brevet. Après, j'ai fait mes études de comptabilité, de secrétaire, enfin, etc. Mais
Où ça?
c'était. Alors, pareil, on ne connaît plus non plus. C'était chez Monsieur Hérard, qui était rue de Presles. Et pareil, très dur, très très dur. Mais on apprenait. On apprenait, par exemple, quand je vois à la télé, quand les jeunes mettent Marseille du côté de Lille, ben, là-bas, on n'avait pas le droit. Hein. On recopiait 3 fois la carte de France avec toutes les villes et tout. Hein. On apprenait les chefs-lieux, les sous-préfectures et tout. Hein. Ben, on a l'air moins cloche maintenant. Hein.
Monsieur Erard, c'était quoi?
Ben, c'était une école privée qui faisait comptabilité et secrétariat. Alors, on avait obligation de faire tant de mots minutes, aussi bien dans sténo. Maintenant, la sténo, on ne fait presque plus. Des fois, j'arrive encore à en prendre en sténo. Hein. C'est amusant. Là, je me souviens plus, parce qu'il y avait la Duployé de Delaunay, mais c'était pas celle-là. C'était bon, je me souviens plus. Et puis, on sortait avec quand même un bon bagage. Hein. C'était de la sténo-dactylo.
Après, vous avez dit là.
Alors, c'était de la Duployé de Delaunay. Ça s'appelait la Duployé de Delaunay. Alors ça, c'est une autre méthode que je ne connais pas, hein. Mais là, je me souviens plus. Je me souviens plus que j'ai appris. Mais alors, on devait taper vite. Hein. Pour ça, taper sur un ordinateur, pour moi, les 10 doigts y vont. Hein. J'ai pas de problème. Hein. Puis je me suis dirigé sur la comptabilité chez un expert comptable. Et là, j'ai eu beaucoup aussi de bonheur parce que j'ai rencontré mes amis, une amie surtout très chère, hein, très très chère, avec qui je suis toujours, qui m'a appris, j'allais dire, le métier. Parce que quand on sort de l'école, bon, débit crédit, bah oui, on sait ce que c'est, mais on ne connaît pas. Hein. Et voyez ce que je disais toujours aux gens, surtout chez Petit Jean quand j'y suis allée, allez déjà dans les ateliers, apprenez ce que l'on fait. Apprenez ce que l'on peut voir comme outil. Si vous ne connaissez pas ce qu'on peut prendre, vous allez mettre ça dans des achats ou dans de l'outillage ou dans du matériel. Vous savez pas. Donc, il faut connaître déjà un petit peu le métier. Moi, j'ai passé des heures dans les ateliers chez Petit Jean. Des heures parce que moi qui ne suis pas manuel, j'admirais ces ouvriers qui pouvaient faire quelque chose de magnifique avec de la tôle. Il y en a qui faisaient des grosses bêtises. Bon, c'est vrai, parce qu'ils n'avaient pas de gants, parce qu'ils enlevaient les garde-fous. Hein. Bon, à leur risque et péril, malheureusement, hein, parce qu'il y en a que quand ils passaient la main en dessous de la presse plieuse, ben, la main, elle était écrabouillée. Hein. Bon, ça, ben, c'est des garde-fous qu'ils enlevaient parce que ça allait passer vite. Mais par contre, chez mon expert comptable, là, j'ai eu beaucoup de bonheur parce qu'on allait voir beaucoup de clients. Aussi bien bah, les gens qui sont toujours là, il y en a qui sont morts, hein. À Chaource, les Robert Frères. Chez Bello, à Chaource, qui font toujours, enfin, maintenant, je ne sais plus, mais ils font toujours du cidre, de la limonade, etc. On allait même dans Lyon, on partait à 7 h du matin, on revenait des fois à 10 h du soir. En temps de comptabilité et de données au fisc, on faisait entre 80 heures par semaine. Moi, je travaillais entre mi, j'étais encore chez mes parents, je travaillais entre midi et 2. Hein, je travaillais le soir. Alors quand on me dit 35 heures, je ris, moi. Je ris. Ça m'a jamais tué. Au contraire, ça m'a donné un courage fou pour travailler. Et on rencontrait aussi beaucoup de gens, beaucoup de personnes, alors j'allais dire de vieilles personnes qui devaient avoir 50 ans, évidemment, hein, quand on est jeune. Et elles m'ont appris aussi à vivre autrement. Je n'aimais pas, petite anecdote, je n'aimais pas la viande crue, enfin je n'aimais pas la viande saignante. Bah, chez une petite dame qui s'appelait Vaudet à Chaource, on mangeait chez les clients. Et il y avait toujours un beefsteak qui était formidable, d'une tendreur, une tendresse qu'on dirait. Ou tendreur, ça va être encore machine qui dit ça, madame. Pas de politique. Et il y avait de la purée, alors de la vraie purée, fait avec des vraies patates, fait avec du vrai beurre, fait avec de la vraie crème. Bon. Et il y avait le sang qui coulait comme ça dans la purée. Mais on m'avait appris chez mes parents, tu manges ce que on te donne. On ne doit pas. J'étais élevée, pas durement, mais on n'avait pas le droit de dire j'aime pas. On goûte. Puis au bout de 2, 3 fois où j'y suis allée, ben j'ai appris à manger et maintenant je mange même de la viande crue. Donc c'est important. Je le dis toujours à mes petits-neveux, je dis écoute, goûte avant de dire je n'aime pas. C'est très important. Et moi je goûte. Je vais en Afrique, je goûte, même ce que ça fait rien. J'ai mangé du rang, j'ai mangé. C'est pas grave. Hein. Faut goûter, et c'est très bon.
Et vous avez rencontré votre mari à quel moment?
Alors, mon frère travaillait à la sécurité sociale avec mon mari, et chez mes parents, c'était la maison du bon Dieu. C'est pour ça que je vous dis, j'étais très heureuse. Et aussi bien mon père que ma mère ramenaient toujours leurs copains. Des fois, c'était assez folklorique, d'ailleurs, surtout du côté des flics, hein, parce que le samedi, c'était pas triste. Il y avait la tournée des bistrots. Bon, c'était assez marrant. Et on mangeait régulièrement des frites et beefsteaks. Et ma mère, toujours très droite, alors elle faisait des frites qui étaient trop cuites et des beefsteaks qui étaient trop cuits. Mais ça fait rien, ça a toujours été comme ça. Bon. Et puis mon frère, ben, il a ramené ses deux copains. Il y avait deux copains. Il les a ramenés chez maman. Et tous les soirs, ils mangeaient chez papa et maman. Puis j'ai connu mon mari comme ça. Mais comme j'étais très timide, et mon mari aussi, ce sont mon frère et mes beaux-parents qui ont dit, bon, ben, ça suffit, il faudrait peut-être quand même qu'un jour vous décidiez tous les jours, un de ces jours. Et c'est comme ça. Et ça a été merveilleux. Moi, j'ai passé un vraiment pas tout à fait, fait 30, 37, 35 ans avec mon mari, puisqu'elle est morte en 98. Hein. Et ça a été une vie vraiment merveilleuse, un peu folle avec mon mari. Il aimait aussi la vie, beaucoup la vie. Philosophe, parce que c'est pour ça que je suis encore maintenant comme ça, philosophe. Parce que tout était, même quand ça allait mal, quand il était malade, quand il était à l'hôpital pendant des mois, enfin des semaines et tout, il nous disait toujours, t'inquiète pas, on ne peut pas tomber plus bas, on reviendra, c'est pas grave. Hein. Et moi, tout ce que et ça a été mes ennuis, ça peut toujours aller. Pour ça que je suis. Alors peut-être aussi c'est mon caractère, hein, parce que tout le monde n'est peut-être pas comme ça, mais j'ai eu un cancer. Je me suis dit, il n'y a pas de raison. Je m'en sortirai, je m'en sors. Hein. Puis si j'en ai un autre, je veux le savoir parce que je veux me battre encore. Parce qu'il faut se battre dans la vie, il faut pas rester. On va mourir. On est né pour ça. C'est vrai. Mais il faut se battre, il faut pas se laisser avoir. Hein. Et là, mon ami, comme je vous ai parlé tout à l'heure, de 87 ans, ce verrier, ben, il était grabataire depuis 1 an et demi. Quand j'ai vu sa femme encore hier, elle m'a dit. Bah, il disait qu'à Noël, il ferait ci, il ferait ça. Mais vous devez donner encore le courage à ses enfants et à sa femme. Je trouve ça que c'est merveilleux des gens comme ça parce que ça donne la pêche. Quand on voit des gens qui sont, oh, c'est la crise. Oui, c'est la crise. Oui, c'est pas drôle. Mais c'est vrai. Moi, j'ai cette chance d'être retraité. C'est vrai que j'ai de l'argent pour survivre. Hein. Non, pour vivre. Survivre, c'est un grand mot, là. Hein. Mais. C'est magnifique, hein. Faut pas se plaindre. Moi, vous savez qui, moi, je vais en Côte d'Ivoire. Hein. J'y suis allée 3 ans, 4 ans, hein, dans un village complètement perdu au fond des forêts, hein, dans un petit village où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de gaz, pas de communication téléphonique, rien. Mais c'était merveilleux. J'ai retrouvé mon enfance. J'ai retrouvé tout ce que j'avais connu ici. Pas facile. Et là, il y a eu des jeunes qui sont venus avec notre association, hein, qui est vendéenne, hein, celle-là. Hein. Et ben les jeunes, ils ont un autre point de vue maintenant. Ils savent ce que c'est que la misère. Et encore, je ne l'ai pas vu la misère, parce que les enfants, il y a 400 enfants dans notre école. Hein. Les enfants, ils ont des bonnes joues, ils sont mignons, ils aiment s'amuser. Mais mon amie, la présidente qui a été au Mali, elle a vu des enfants crever, on ne peut pas dire mourir, crever, hein, de faim. Moi, je ne l'ai pas vu en Côte d'Ivoire dans notre. Parce qu'il y a toujours un plat de riz où les enfants pourront manger. Mais c'est terrible de revenir de là-bas. Moi, quand je reviens de là-bas, je peux plus supporter les enfants d'ici. Ils ont tout et ils se plaignent. Et ça, c'est terrible. Là-bas, le premier jour où j'y suis allée, c'était pas encore la nuit tombe très vite, mais enfin j'allais voir les instituteurs puisque c'était notre école. Et il y avait un enfant qui était sur le chemin de terre, qui avait un gâteau. Puis il m'a dit, il me l'a coupé en deux, puis il dit, tiens, je te le donne. Moi, j'ai jamais vu ça chez mes neveux, jamais. Ça, quand on me dit ça à moi, je sais pas ce que je leur ferai, je les claquerai. Là-bas, c'est pas à moi, on partage. Ils ont des défauts, attention. On va pas, hein, ils ont des défauts, hein. Mais ce partage de pauvres, eh ben moi je l'ai connu dans ma jeunesse, et ça c'est merveilleux. Et on ne sait pas ce que c'est que le partage.
Alors, vous êtes marié en quelle année?
En 61.
Chèque, ça vous disait rien?
Ah, oh ben si, quand même. Si, ça me disait, parce que mon mari, et puis mes beaux-parents surtout, on parlait un petit peu de Gaston Nicolas Chèque, hein. Bon, mais sans plus, hein, comme disait toujours mon mari, Comment, la coopérative vinicole du Landion, avec Joël Thierry, un jour est venue à Bayel, puisque j'ai conservé toujours la maison de Bayel de mes beaux-parents que j'adorais. Hein. Et un jour, ils sont venus avec le papa, qui était verrier. Puis, gentiment, ils nous ont demandé, poliment, tout en étant très, très timides, est-ce que ça vous gênerait? Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de Gaston Nicolas Schaeck pour notre coopérative et pour le vin? Et mon mari, il a dit oui, à une seule condition, c'est que le champagne soit toujours très bon et toujours égal. On a voulu dire à mon mari, bah tiens, on vous paiera, enfin, on vous donnera. Mon mari, comme son grand-père, a dit non. Moi, c'est pas moi qui ai fait la bataille. C'est mon grand-père qui a fait la bataille. Moi, je n'ai que le nom. Alors, vous voyez, moi, le bénévolat, je l'ai toujours eu avec eux. D'être grand-père que je n'ai pas connu, puisque j'étais pas née. Mon mari avait 8 ans quand il est mort, hein, le grand-père. Hein. Il l'a connu que malade, hein, ce grand-père. Hein. Et mes beaux-parents, qui étaient d'une générosité, c'était merveilleux. Moi, j'ai pris mes beaux-parents exactement comme mes parents. J'ai eu autant de chagrin de les perdre que mes parents, à la limite. Parce que c'était des gens qui m'ont aussi appris à 360 degrés voir la vie. Et à ne pas se classifier dans je suis chrétien, je suis protestant, je suis athée. Eux, ils étaient athées, hein, bien sûr. En tant qu'instituteur, bien souvent, ils étaient athées. Hein. Mais mon beau-père allait me chercher tous les samedis les heures de messe à Bayel. Hein. Jamais il y a eu une seule réflexion, jamais. Et mon beau-père était libre penseur. Et moi, je pensais que la libre pensée, c'était comme mon beau-père pensait vraiment. À tout et puis à cette ouverture d'esprit. Puis j'ai vu ses copains, vignerons, instituteurs même, hein, qui étaient aussi le libre penseur. Et là j'ai vu ce que c'est un libre penseur bouffant du curé. Alors ça m'a étonné. Ça, je me dis, bah, il est pas comme ça, papa. Et là, vous voyez, donc j'ai appris qu'il y avait d'autres personnes, comme d'autres chrétiens, qui sont pas non plus des chrétiens. Puis j'en ai connu, on vendait des chrétiens, des vrais, des purs, des magnifiques. Mais pareil, sans. Alors, ils étaient très amis avec mon mari, qui était athée, ils le savaient, mais ils étaient toujours formidables. J'ai connu, peut-être que j'éliminais aussi beaucoup de gens que je voulais pas apprécier. Et
Alors,
j'ai
qu'est-ce qu'on
connu.
me racontait sur Gaston Nicolas Schaeck?
Alors, pas grand-chose, justement, pas grand-chose, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un petit peu ce recul devant ce père qui avait un peu abandonné ses enfants. Enfin, pas abandonné, j'exagère, mais il était toujours par moi et par vous. Hein. Il était partout. Si on voit le film de Gaston Schaeck qu'ils ont fait, mais il écrivait. Moi, j'avais une malle entière dans sa maison personnelle à Bar-sur-Aube. Cette maison, j'ai dû la vendre parce que mes moyens ne permettaient pas de garder tout ça. Et j'ai donné tout à la coopérative du Landian. Mais c'est des monstres d'écriture qu'il avait, le grand-père. Une écriture. Je vous assure qu'il était magnifique, hein, comment, d'orthographe, de bon français, hein, comme beaucoup maintenant non plus. Hein. Je ne sais pas jusqu'où il est allé dans les études, hein, mais c'était formidable. Hein. Alors ce grand-père, moi je n'ai connu qu'un grand-père, on m'a dit, hein, qui était malade. Il était potier, ce grand-père, avant de se lancer à la conquête. Des vignobles, hein. Enfin des vignobles, de l'appellation Champagne. Hein. Et il était potier et il y avait du plomb dans certaines poteries et dans les vernissages. Il avait la maladie du plomb. Je sais plus comment ça s'appelle, le nom ne me revient pas. Saturnisme, voilà. Et il avait, bon, j'allais dire comme une sorte de cancer. Et mon beau-père disait à la fin de sa vie, on devait aller chercher sur la route de Soulaines, il y avait une petite fontaine que je connais, parce que j'y suis allé voir cette fontaine. Et on devait lui rapporter, mon beau-père lui rapportait de cette eau, qu'il trouvait pas miraculeuse, parce qu'il n'y croyait pas au miracle, mais trouvait que ça l'apaisait. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu. Et puis, un très grand pêcheur. Alors, pêcheur en ligne, hein. Alors, mon beau-père, c'est un très grand pêcheur aussi, au fouet en particulier. J'adorais voir mon beau-père pêcher au fouet. Mon mari, c'était la mouche et au lancer. J'aimais bien les voir tous les deux, c'était vraiment un peu des artistes. Hein. C'est quand on voit dans le film Au cou de la rivière ou quelque chose comme ça, c'est quand je les vois au fouet, oh, je trouve que c'est merveilleux cette pêche. Hein. Alors, voilà, je connais du grand-père plus ce côté vieillissant, ce côté mal passé, quoi, sa vieillesse, hein, mal passé. Hein. La grand-mère, j'ai très peu de souvenirs. Enfin, j'ai pas de souvenirs non plus d'elle, mais on me disait que c'était quelqu'un de très vaillant. Elle devait, parce que pour supporter un homme comme ça devait pas être drôle. Hein. Un sale caractère, quand on voit ce menton volontaire, ouh, il ne devait pas être commun. Mais j'ai jamais entendu dire qu'il était méchant avec ses enfants, jamais tout. Hein. Mon beau-père, je pense, aimait son père. Hein. Mais bêtement, j'ai jamais rien demandé. J'aurais pu demander, vous voyez, beaucoup de choses. Jamais demandé. Toujours pas. Quand on est jeune, un peu bête, et c'est bien ce que vous faites. Parce que ce que vous faites, c'est justement voir les anciens, ne pas faire mourir les anciens, ne pas faire mourir la mémoire.
Et 1911, c'est une date que
Ah,
vous avez
1900.
connue quand?
Bon, si on veut, depuis que je connais mon mari, 1911, bah, c'était l'époque de la révolte. Alors pour moi, la révolte, c'est toujours été quelque chose de permanent en moi. Je suis révoltée en permanence, révoltée contre la misère, révoltée contre la bêtise humaine, révoltée contre la guerre. Je dis, on est né peut-être pour s'entendre, pour s'aimer, et quand on voit toute cette tuerie, c'est insupportable
Et
pour
qu'est-ce
moi.
que vous en disiez de cette date-là, ou cette période-là,
Pas
vous?
grand-chose, pas grand-chose. J'ai plus appris par une voisine qui avait connu un petit peu elle était plus jeune que ce grand-père, mais elle se souvenait très bien, cette voisine, de cette révolte. Hein. Parce que ses parents, qui avaient des vignes, se souviennent aussi que tout le monde s'est révolté, sont allés parcourir des Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube jusqu'à Troyes. Alors, je vois bien sûr les photos où le grand-père est encore monté sur les épaules. Il était très petit, enfin petit, il faisait 1,65 m, quelque chose comme ça. Il était monté sur les épaules de ses copains vignerons qui étaient des costauds, haranguant la foule. C'était quelqu'un aussi qui était créateur. Enfin, il faisait la musique et les paroles des chansons. Et des chansons, alors j'ai donné beaucoup de. Je n'ai plus, j'ai tout donné à la coopérative du Landion, hein, mais il faisait des chansons, bien sûr, très, très tendance contre. Il était de gauche, hein, enfin de gauche, ça s'appelait pas la gauche, c'était socialiste, mais socialiste comme on l'entendait dans le temps, hein, très bien. Et il était contre la droite, bien sûr, de la mairie de Bar-sur-Aube. Et il avait créé une chanson, c'était L'eau de la rivière, parce que l'eau de la rivière, la droite, dont la mairie de droite, avait voulu faire détourner la rivière Aube pour pouvoir avoir de l'eau pour la ville de Bar-sur-Aube. Alors je vous dis ça comme ça, alors il y a peut-être des. Moi, je me mets ça comme ça, que j'ai entendu. Hein. Et le grand-père avait écrit dans cette chanson L'eau de la rivière, ou le brochet et la truite, enfin, etc., etc. Donc, il voulait tourner en ridicule que les Baralbins allaient boire de l'eau du brochet, de la rivière, enfin, tout ça. Et puis, quand ils sont venus, après, la gauche est venue, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose que la droite avait suggéré, ça continue toujours hein, d'ailleurs en politique. Hein. Alors c'était assez drôle, mais il n'a jamais voulu entrer dans les honneurs, jamais, jamais, jamais. Il a toujours été contre tous ces honneurs. Et le grand-père avec qui j'ai vécu bah, toute mon enfance et qui a été en la guerre 14-18, il avait sauvé son capitaine, il avait sauvé des copains, on avait voulu lui donner la Légion, il a dit non, j'ai fait que mon devoir. Et vous voyez, ces vieux-là, c'est quelque chose. On court pas après les honneurs. Quand on fait son métier, quand on fait ce qu'on doit faire, C'est normal de faire ce qu'on a de faire. Donc, c'est pour ça que j'aime ces gens-là. Je n'aime pas ces gens qui ont des décorations. Y en a qui le méritent, hein, comme la vieille personne, il avait au moins 10 médailles à 17 ans. Oui, je mêle un peu tout, mais parce que lui, il aimait bien. C'était quelque chose, Monsieur Thierry, qu'aimait bien. Il s'était tellement donné pour Libénor, que c'était un honneur pour lui tous les ans, tous les ans, tous les ans. Il allait pas loin de Troyes, là. Il y a là où on a fait un monument pour les anciens. Ils en ont reparlé encore hier. Hein. Tous les ans, il le faisait. Et même quand il était malade, il était assis sur une chaise, il faisait son discours et il sonnait encore son corps. Hein. Mais toujours pareil, toujours ces anciens. On ne demande rien, mais on doit donner. C'est ça, on doit donner. Si on ne donne pas, moi je dis on n'est rien dans la vie. On doit donner.
Votre beau-père, c'était... Il s'appelait...
Alors, il s'appelait Gaston, comme son père, hein, et mon mari c'était Jacques. Et Gaston, lui, ben, il était instituteur à Bar-sur-Aube, et ma belle-mère aussi était institutrice à Bar-sur-Aube. Comment? À l'école Bureau. Petite anecdote sur cette école, ça m'avait amusé énormément. Ils avaient construit cette école et ils avaient simplement oublié de faire les escaliers à l'étage. Mais mon beau-père, c'est pareil, c'était quelqu'un qui était gay, qui était drôle. Moi, j'ai vécu vraiment dans cette famille de gaieté, de partage, de gaieté. Bon, sauf quand ils ont eu tous ces problèmes. Ma belle-mère avait la sclérose en plaques. Mon beau-père, il a fini sa vie malheureusement à l'hôpital de Bar-sur-Aube dans un état gravataire. Enfin, mais c'est pour ça que c'est pas beau de voir les siens se dégrader comme ça. Et Abel Thierry est mort hier. Ben, il y a un de ses petits-enfants qui m'a dit, on est content que Pépère soit parti. Parce que c'est terrible de voir des personnes qui ont cette force de la nature et qui s'en vont par petits bouts, hein, qui se dégradent, hein, dans un état pas possible. Ce vieux monsieur, il devait être malheureux de se voir comme ça, lui qui était la force de la nature, puis se voir comme ça. Donc la mort, je crois qu'il faut la voir un peu plus en face, quoi.
Et vous m'avez dit que Gaston Nicolas Schenck avait un peu de vigne. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette vigne?
Rien. Moi, je l'ai jamais connu, hein. Jamais connu.
Elle s'est pas transmise, alors.
Jamais connu. Mais connaissant mon beau-père, il est capable de l'avoir donné. Vous alliez chez lui. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Vous me dites, oh, bah tiens, c'est beau ça. Mon beau-père disait, bah tiens, je te la donne. Et mon beau-père a donné des terrains comme ça, parce que c'était ça. À la limite, mon mari était pire que lui encore, parce qu'il disait, tout le matériel, c'est rien le matériel. Il aurait tout vendu, lui, pour ses idées. Moi, il fallait que je me batte des fois contre mon mari, parce que il aurait tout donné. Il fallait se battre pour ses idées.
Et vous pensez que la personnalité de votre mari, celle de votre beau-père, c'est quelque chose qui était...
Moi, je pense. Je pense, et vous voyez, moi, ils ont déteint sur moi, en plus. Parce que je suis plus matérialiste quand même qu'eux. Ça, c'est vrai. Hein. Moi, la maison de Bayel où j'ai gardé, hein, c'est. Vous voyez, je vendrais l'appartement, je vendrais un tas de trucs, mais la maison de Bayel, c'est mon cœur, c'est ma vie, c'est l'amour que j'avais avec eux, et ça, c'est difficile pour moi. Hein. C'est peut-être la seule chose que j'aurai un mal fou en vieillissant, il faudra que je m'en sépare un jour, parce que je pourrais plus y aller pareil, je pourrais plus l'entretenir, etc. Mais c'est la seule chose qui me fait beaucoup de peine, beaucoup, beaucoup de peine. Mais mon mari, pour ses idées, il aurait tout vendu. Il défendait ses idées. Il défendait parce que mon mari s'est battu pendant plus de 15 ans aussi contre l'administration. Hein. Et oui. Oui, c'est des combattants. Il y avait mon beau-père qui était plutôt calme. Hein. Mais le grand-père et mon mari, c'était des combattants, ces deux-là. Hein. Bon, malheureusement, il n'a pas gagné, mon mari. Et je pense que c'est un peu ça qui l'a emporté dans sa mort. Hein. Alors, c'est pareil, il a été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire, Commission européenne, et il est mort. Et quelques jours après, j'ai reçu de la Commission européenne qui ne pouvait rien faire. Et je me suis dit, tant mieux, il est mort, il n'a pas connu encore cet échec. Vous voyez, toujours, il faut toujours dire, bah, il faut toujours pas minimiser, mais pas être négatif tout le temps. Faut toujours dire, eh ben, il ne l'a pas connu, tant mieux. Moi, il est mort, mais j'ai toujours. Alors, je ne vous dis pas, quand même, pendant les premières années, ça a été très dur pour moi. Hein, mais maintenant, je dis, il est mort, même. Il m'a tellement aimé qu'il est mort pour que je fasse ce que je veux. C'est-à-dire faire les comptabilités des jeunes, les aider, faire les trésoreries des associations, aller en voyage, vous voyez, aider les personnes âgées. Que j'aurais certainement pas pu faire s'il avait été là, parce qu'il m'a entraîné, bah, puis on fait pas quand on est marié, hein, alors que là, je suis libre. Et je dis toujours, moi, pour moi, le plus beau mot de la langue française, c'est liberté. Ça a toujours été. Amour, c'est vrai, mais liberté, c'est encore plus beau.